Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, nous pouvons lire le récit d'une étrange conversation se déroulant entre Jésus et certains de ses disciples. Le Fils de Dieu leur dit à propos de sa résurrection, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père ? » Nombreux sont ceux qui, de nos jours, posent encore la même question, « Montre-nous le Père. » Ils se torturent l'esprit pour essayer de percer ce qu'ils nomment un mystère. Tout cela provient essentiellement de la fâcheuse tendance qu'ont les hommes de vouloir, à toute fin, matérialiser les choses qui relèvent du domaine purement spirituel. Et j'irais même jusqu'à dire que la multiplicité des sectes religieuses est en grande partie provoquée par les fausses conceptions de la nature de Dieu. En effet, une intelligence erronée quant à Dieu entraîne tout naturellement l'homme à lui rendre un culte conforme à l'idée qu'il s'en forme. Ce qui veut dire que la conception que l'on se fait de Dieu affecte nécessairement le culte qu'on lui rend. On rencontre très souvent des gens pour qui Dieu est doté d'un corps fait de chair et de sang. Pour Jésus, s'adressant à une femme samaritaine, affirme « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Il ajoutera même plus tard, en montrant ses mains et ses pieds percés par les clous, à Thomas, « Un esprit n'a ni chair ni eau. » Certains diront, « Mais Dieu n'a-t-il pas créé l'homme à son image ?» C'est parfaitement exact, mais Dieu a créé l'homme à son image spirituelle et non matérielle. L'apôtre Paul définit d'ailleurs cette création en parlant de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, et qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Les Juifs étaient persuadés que Dieu était en quelque sorte à eux seuls. Cette idée avait fait germer dans leur cerveau un orgueil et une morgue incommensurables. La classe dirigeante, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens, se font proprement traiter de race de vipères par Jean-Baptiste, qui les tense en ces termes, « Ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. » Autrement dit, ne vous retranchez pas sans cesse derrière votre appartenance à la race élue de Dieu pour cacher toutes vos filiennies et prétendre posséder des vertus que vous n'avez pas. Nous avons très souvent la fâcheuse tendance de nous figurer que Dieu est nécessairement de notre côté, et qui ne peut absolument pas prendre parti pour notre adversaire. Je n'en veux pour preuve que le fait que lors des deux dernières guerres mondiales, nous demandions à Dieu de bénir nos armes pour lutter contre les Allemands qui, pour leur part, portaient gravés sur la boucle de leur ceinturon ces mots significatifs « Gott mit uns »,« Dieu avec nous ». D'aucuns croient que Dieu a prédestiné certaines personnes à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle. Que l'être humain ne peut rien faire pour influencer ce choix. Ils enseignent que l'Éternel se trouve du côté de certains et pas d'autres. La Bible dit pourtant, Dieu ne fait exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Que de fois n'entend-on pas proclamer que Dieu étant infiniment bon et infiniment miséricordieux, pourvoira à la vie éternelle de chacun bon ou moins bon et que par conséquent, il n'y a pas lieu de s'en faire. Dans le livre du Lévitique, la parole de Dieu nous parle de deux hommes, dont une des tâches consistait à préparer l'autel des parfums pour que l'Éternel y envoie un feu venant du ciel. Cependant, ils décidèrent un jour de changer cet ordre des choses. Les fils d'Aaron, nous dit la Bible, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. S'agit-il là de l'attitude qu'adopte un Dieu infiniment bon et infiniment miséricordieux? Souvenons-nous également du moment où Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Quel en fut le résultat? Écoutez bien ce que nous dit la Bible en Genèse, chapitre 7 et verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Pensez-vous toujours que la bonté et la miséricorde de Dieu sont infinies? Dites, le pensez-vous toujours? L'arche de l'Alliance devait être, suivant l'ordre de l'Éternel, portée sur les épaules d'hommes appartenant à la tribu de Lévi. Au lieu de cela, on plaça cette arche sur un char, tiré par des bœufs et accompagné par deux Israélites. Et les Écritures nous racontent que lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Macon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. Quel est votre avis après ces trois récits? Voyez-vous, l'homme a trop tendance à créer dans son imagination un Dieu à son image, c'est-à-dire conforme à ce qu'il voudrait que Dieu soit. Autrement dit, un être suprême qui comprend tout, excuse tout, pardonne tout, à l'infini, sans jamais se lasser. Un tel Dieu, dites-vous bien, ne serait pas digne d'être cru, pas digne d'être adoré et servi. Pourrait-on avoir confiance, croire, espérer en un Dieu réduit à la toute petite dimension de l'être humain? L'apôtre Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais l'apôtre Paul nous avertit également que le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. D'autres, par contre, se sont forgés un Dieu qui, croit-il, est trop dur, trop cruel pour aimer l'homme. Je m'en voudrais d'être méchant. Mais je crois que l'on a souvent l'habitude de juger les autres d'après soi-même. Peut-être ne sont-ils pas capables de concevoir l'amour de Dieu. Un aveugle peut-il juger la peinture de Rubens ou de Rembrandt? Le sourd est-il insensible à la beauté d'un menuet de Mozart? L'habitant du Groenland a-t-il une idée exacte de ce qu'est un climat tropical? L'aborigène d'Australie arrivera-t-il jamais à imaginer ce qu'est une locomotive, même si on l'a vu décrit dans le détail? Non. Notre Dieu n'est nullement trop dur pour aimer. Au contraire. Paul affirme, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Le Père éternel est un Dieu dont l'amour est entièrement pur, entièrement désintéressé. Non, nous dit Esaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le Dieu des chrétiens, c'est-à-dire de la Bible, est très différent de ce que se figurent ceux qui n'ont pas encore eu l'immense bonheur de se pencher sur la Bible. Notre Dieu est bon. Et dans l'Épître aux Romains, un apôtre de Jésus nous dit, considère donc la beauté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Mais cette bonté se prouve précisément par le fait qu'il punit le péché. Il réserve en effet, nous dit toujours la Bible, la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. Le Dieu de la Bible nous révèle son immense justice en nous donnant dans le Nouveau Testament absolument toutes les directives nécessaires pour mener une existence dont il distribue chaque élément avec un équilibre dont seul lui est capable. Oui, en lisant et en méditant les Écritures, on s'aperçoit très vite qu'il prend un soin extrême de ceux qui vont à lui. Il ne faut cependant pas verser dans le travers de tous les malheureux qui essayent de se persuader que l'Éternel ne leur demande rien et pour lesquels il n'est au fond qu'un Dieu faible, géniard. Ce Dieu-là, ils l'ont créé à leur image, à la mesure de leur immense appétit des choses matérielles, à la mesure de leur propre lâcheté. Le livre des Proverbes dit « L'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père celui qu'il chérit ». Et l'apôtre Paul dit également aux Hébreux, notre Dieu est aussi un feu dévorant. La miséricorde de notre Dieu ne peut pas plus que sa nature même se mesurer à l'échelle humaine. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais nous ne pouvons compter sur une miséricorde sans fin, sur un amour sans borne, sur une vie éternelle accordée d'office par la vertu de nos propres mérites humains. Oh non! La conception que nous nous faisons de Dieu influence notre comportement quant à l'obéissance que nous lui devons et au culte que nous lui rendons. Dieu est-il pour vous un esprit, un Dieu de chair, ou encore un Dieu façonné dans la pierre ou dans l'or? Réfléchissez au grave danger que représente une fausse conception de Dieu. Penchez-vous dès maintenant sur le seul moyen de rencontrer votre Créateur. Lire, étudier et méditer la Bible. Nous sommes là pour vous y aider de toute notre force et d'une manière totalement désintéressée, croyez-le. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement en tant que nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure. Le Seigneur m'aime, il est amour.